La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans le faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous souhaitons la bienvenue sur notre podcast autoproduit pour Tract et Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens qui, par leurs travaux ou leurs réflexions, développent des discours alternatifs ou subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il soit joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons au maximum nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations, afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Qu'appelle-t-on vraiment culture alternative ? Est-ce juste une question de look ou de pratique, ou est-ce beaucoup plus profond que ça ? En véhiculant par exemple des messages à même de remettre en question certains dogmes de notre société, comme peuvent le faire certains philosophes ou scientifiques. Pour répondre à tout cela, nous sommes intéressés, le temps de ce nouveau podcast, au parcours de notre invité du jour, Alexis Gauthier. Alexis navigue dans les cultures alternatives depuis les années 2000. Il y a le skate et le punk hardcore où il a monté plusieurs groupes, créé un label, a été distro, créé un fanzine et aujourd'hui photographe et réalisateur et monteur de documentaires où il a notamment pu mettre en avant la scène skate en Europe et aux États-Unis et les cultures alternatives en général. Vous l'avez compris, les cultures alternatives font partie intégrante de la vie d'Alexis, au point même que ces dernières lui ont fait découvrir le straight edge et le véganisme qui deviennent alors de véritables lignes de conduite. Nous remercions grandement Alexis de nous avoir contactés afin que nous puissions enregistrer avec lui cet épisode et qui vous permettra, nous l'espérons, de mieux appréhender les cultures alternatives et de comprendre comment elles peuvent avoir un impact positif sur la vie de certaines personnes, comme c'est le cas avec Alexis. Salut Alexis!
Salut les gars.
Salut.
Eh ben, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Tu t'es proposé. C'est vrai qu'on le met dans les épisodes. Si jamais vous souhaitez vous proposer en tant qu'invité, parce qu'il y a toujours des sujets cool à aborder, et puis notamment ce qu'on va aborder avec toi aujourd'hui autour des cultures alternatives, ça va être très intéressant, je pense.
Ben, j'espère.
Pour démarrer doucement cet épisode, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours au sein des cultures alternatives ?
Ouais, alors moi ça a commencé assez tôt, donc en 2001, là j'ai 37 ans, en 2001 j'ai commencé, donc j'avais 12 ans, j'ai commencé à faire des concerts à Saint-Nazaire, donc concerts punk, metal, il y avait une scène assez active là-bas, enfin une salle pardon, qui s'appelait le VIP, qui s'appelle toujours. En même temps, j'ai commencé le skate, donc une autre culture quand même alternative assez présente dans ma vie. Je passe en revue un peu rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Ensuite,
ouais,
un
pas petit, de problème, ouais.
Petit bond en avant, j'ai eu mon premier groupe de hardcore en 2008. Peu de temps après, j'ai commencé une distro. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, une distro, en gros, c'est une distribution de disques. En indé, donc l'idée c'est d'importer des disques de labels et puis de les revendre pour distribuer des disques qui sont pas forcément dispo chez les disquaires au grand public, on va dire quoi, c'est un peu dans le truc de niche. Donc ça, j'ai commencé ça en 2009, ça s'est appelé Straight Edge Alert Records. En 2013 ensuite, j'ai commencé à faire une partie label, donc c'est-à-dire sortir des groupes. Le premier disque que j'ai sorti, c'était le disque de mon groupe d'ailleurs à l'époque. Et en 2013, enfin ça faisait déjà un ou deux ans que je faisais ça, et en 2013 c'était vraiment l'officialisation, c'est-à-dire que j'ai quitté mon taf et j'ai fait ça à plein temps. C'est devenu mon boulot. En parallèle, je commençais aussi à driver des groupes en tournée. Donc, j'avais un van, voilà, je partais avec des groupes, je faisais le driver, le merch guy, ce genre de choses. J'ai eu plusieurs groupes, dont un, le plus connu entre guillemets, avec lequel on a fait plus de choses, qui s'appelait Armdon. Donc là, j'ai fait pas mal de trucs, organisation de tournée, ensuite on a tourné pas mal en Europe, aux US, au Japon. On a fait le Hellfest aussi, je sais plus quelle année, 2016 ou 2017. Et voilà, depuis Armdon s'est terminé, j'ai toujours pas mal, enfin pas mal, pardon, j'ai toujours j'ai toujours un groupe de hardcore plus moins actif, mais toujours un peu à Nantes, et là un nouveau projet à Bordeaux maintenant qui devrait se monter. Et j'ai quitté un peu le monde de la musique de manière professionnelle, tout du moins en 2018. Et maintenant, je suis réalisateur, donc je fais du docu, docu de marque. Et notamment, j'ai fait des choses dans le skate. J'ai aussi été cadreur pour un docu sur le satanisme en France, qui va sortir normalement cette année, je crois. Donc voilà, les cultures alternatives, un peu de bords divers et variés.
Hop hop hop, avant de continuer, sachez que chez Tract, nous ne faisons pas que des podcasts ou des vidéos. Notre souhait est de déconstruire et d'analyser les effets néfastes de notre société actuelle, comme les discriminations, les pressions sociales ou encore la crise environnementale, de déconstruire les évidences qui nous font penser que trop souvent la vie est ainsi faite, tout en réfléchissant et en promouvant de nouvelles façons de concevoir cette dernière à travers un prisme poétique. Pour soutenir notre travail, vous pouvez vous rendre sur move.tract.fr, le lien est en description de cet épisode, afin de découvrir l'ensemble de nos champs d'action entre production médiatique et artistique ou encore organisation de débats, et pourquoi pas adhérer à notre association si vous souhaitez rejoindre notre collectif et nous aider à développer nos contenus et nos actions. Merci et bon podcast.
Et qu'est-ce qui t'attire justement dans ces cultures alternatives? C'est que tu disais pas mal de choses entre le skate, la musique, etc. Il y a quelque chose en commun qui t'attire dans ces cultures-là du coup?
Je pense que c'est peut-être le fait d'être en marche, c'est pas un truc que je recherche forcément, c'est peut-être un truc juste qui m'appelle en fait un petit peu quoi, mais c'est un peu le parallèle que je vois, que ce soit dans la musique qui était quand même assez niche, ou le skate, bon même si le skate maintenant c'est devenu plus grand public, mais à l'époque quand j'ai commencé ça l'était moins, ça restait un truc assez minoritaire quoi.
Et ce qui est marrant en fait dans ton parcours, c'est quoi, t'expliques que t'as joué dans plein de groupes de... c'était plus du punk hardcore?
Ouais c'est ça.
Comment ça se fait que t'as eu tous ces groupes-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a un moment donné, en tant que membre, enfin, vous sentiez que un projet était terminé, et puis t'en as lancé d'autres, ou ça c'est juste des histoires de membres peut-être qui sont à peu près détachés des groupes, enfin.
C'est un peu un mélange de tout. En fait, ce style, ça a aussi vocation à avoir des groupes qui ont des durées de vie très courtes. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment le cas. À l'époque, je parle peut-être dans les années 80, 90. C'était toujours comme la musique, en fait, un peu court et intense, quoi. Et donc, c'est vrai que les groupes, à part Armdon, je crois pas que j'en ai eu d'autres qui ont duré plus de 3 ans, ce qui est assez court au final pour développer quelque chose. Mais on a quand même réussi à être assez actif dans ces périodes-là. Comme tu le dis, il y a aussi la réalité de chacun qui fait que il y en a qui sont peut-être plus investis au départ. Après, ça se détache un peu. Mais vu qu'on est potes et que de toute façon c'est un peu tous les mêmes groupes de personnes qui font les trucs, on prend deux d'un groupe et deux d'un autre et on en fait un troisième. Quand les deux autres se séparent ou pas forcément, c'est ce qui est arrivé avec notamment Armdon. Il y a des gars qui sont dans Regarde les hommes tomber maintenant, qui étaient à l'origine du groupe, avec qui j'avais fait d'autres groupes avant. C'est vraiment voilà.
Ah mais je trouve ça assez intéressant parce que on a toujours un peu l'impression que quand on monte un projet, toi t'as un peu cette notion, j'ai l'impression un peu dans une société où ouais tu montes un projet, donc faut que ça soit un truc sur du très long terme. J'ai l'impression que les gens se mettent un peu la pression avec ça, alors justement bah toi comme tu fais, tu montes des groupes, ça dure quelques années, 3 années au maximum comme pour toi ça a été, et puis en fait ça permet aussi je trouve de créer des choses sans trop se mettre de pression dans le temps quoi.
Ouais bah en fait c'est un peu à double tranchant parce que d'une part tu t'as ce truc là où tu te mets pas trop la pression et t'as une espèce de fraîcheur du début hyper naturelle et sans trop de calcul de prise de tête. D'un autre côté, Bah, il y a des trucs que peut-être j'aurais bien aimé qu'on pousse un peu plus en fait avec le recul, et qu'on, alors qu'on pousse, c'est-à-dire qu'on aille plus loin que faire des petites tournées européennes devant dans des salles devant 50 personnes et peut-être passer les caps supérieurs, ce genre de choses. Et notamment, encore une fois, j'ai beaucoup parlé de Harmdom parce que c'est le truc avec le groupe avec lequel on a fait le plus de trucs. Je pense j'en parlais avec le bassiste, l'ancien bassiste la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Avec le recul, je trouve qu'on s'est arrêté juste avant peut-être de passer un palier et d'évoluer vers quelque chose de pas plus intéressant mais de différent, quoi.
Ouais, justement, enfin, c'est un peu aussi le sujet de la deuxième question, c'est que. Moi, on avait posé cette question-là avec ce terme de, en gros, tu figes rien parce que tu fais plein de trucs. Enfin, tu vois, t'as même créé un fanzine, t'as eu plusieurs expériences professionnelles et justement, toi, t'aimerais un peu plus des fois figer les choses.
Ouais, bah c'est un peu un combat de tous les jours. C'est-à-dire que moi, je suis un peu toujours. J'aime bien que les choses ne soient pas figées parce que je suis vraiment touche à tout. Donc j'aime bien faire plein de choses et avoir des projets un petit peu, mais parfois ça permet, ça empêche d'apprécier aussi peut-être un peu plus le moment présent, de kiffer le truc en l'état comme il est et pas toujours de continuer à voir le prochain projet en fait. Donc il y a une forme de liberté. Mais il y a aussi une espèce de cercle vicieux de qu'est-ce que sera la suite en fait, quoi.
Ouais, c'est vrai que la forme de liberté, c'est bah comme tu dis, ouais, c'est que ça permet de un peu de lâcher prise peut-être et puis de faire son truc sans trop se prendre la tête, mais de figer les choses, ouais, ça permet d'aller peut-être plus en profondeur et de parcourir un peu plus le sujet, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que c'est pareil quand tu refais un nouveau projet, bah pour rester dans la musique, c'est-à-dire que tu repars un peu de zéro, même si tu peux un peu jouir un peu de la notoriété, on va dire, avec des gros guillemets de ton ancien groupe pour avoir une petite fanbase ou ce genre de choses. Mais en fait, quand tu repars avec un nouveau nom et un nouveau projet, il faut un peu tout reconstruire, quoi. Et ça peut parfois être un peu aussi laborieux.
Toi, tu le sens des fois, justement, ouais, quand tu as l'impression un peu de repartir de zéro, alors il y a peut-être cette excitation de recréer un truc, mais est-ce que des fois il y a un peu, entre guillemets, cette flemme de se dire, ah putain, il faut un peu tout reconstruire, quoi.
Ouais, je sais pas si je l'ai vraiment vécu, parce que je pense que si vraiment j'avais la flemme, je m'embêterais pas à continuer à vouloir faire des groupes. C'est un peu un truc, c'est toujours par vague, hein. Moi, j'arrête, et puis après, ça me manque, j'ai envie d'y revenir. Mais ouais, il peut y avoir un côté un peu pas décourageant, c'est pas le terme, mais je pense que tu repenses forcément à ce que t'as pu connaître avec un ancien projet, que ce soit une notoriété, des gens qui connaissent les paroles, ce genre de truc. Et bah, si tu l'as pas avec le nouveau, ouais, il peut y avoir un petit sentiment de frustration, quoi. Le temps que ça se fasse, on va dire, si ça se fait.
Et justement, là, on parle, toi, depuis le début, enfin, de culture alternative. Nous, on avait une question à te poser, c'est justement, est-ce que ces cultures partent un peu, on va dire, comme elles évoluent un peu en marge de certaines sphères d'une société, est-ce qu'elles t'ont permis de poser un autre regard sur les choses qui t'entourent ?
Ouais, clairement. Bah déjà, je pense que le rapport à l'effort, au travail et un peu à l'humilité aussi, le fait de faire les choses aussi comme on l'entend, comme on disait en fait, sans pression, pas essayer de coller à la norme ou à ce qui se fait, ce qui est bien et tout ça. Le fait un peu que tout est possible aussi en fait, alors c'est un peu idéaliste, mais à condition de se donner les moyens. Et je mets pas du tout de côté le facteur aussi de déterminisme social qui a un grand rôle dans tout ça. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir dans un cadre hyper sain avec des parents qui m'ont toujours soutenu, et sans ça, je pense que j'aurais pas pu faire autant de choses. Mais ouais, le fait d'évoluer dans des cultures dites alternatives, ça a influencé toute ma vie, que ce soit dans le pro. Bah, par exemple, le fait de créer mes propres boulots, en fait, que ce soit au début avec le label, maintenant je suis vidéaste, je me suis formé un peu tout seul, ou dans le perso, parce que ça m'a ouvert, je pense, à des valeurs comme le straight edge, la cause animale, ce genre de choses qui sont quand même inhérents, c'est pas le terme, mais qui sont présentes dans des cultures alternatives, là où tu retrouves pas forcément ça, ou moins dans les cultures. En dehors des cultures alternatives, on va dire. Je sais pas si j'ai répondu à la question exactement.
Ouais, bah si, enfin justement, comme tu disais, tu avais aussi ouvert sur d'autres sujets comme le streetage ou la cause animale et tout.
Ouais.
Et on y reviendra peut-être un peu plus tard dans l'épisode, mais ouais. Puis tu parlais justement, enfin aussi quand on préparait l'épisode avec toi et nous on le sent aussi, comme on connaît aussi un peu cette culture-là, c'est que une des choses qui ressort souvent quand qu'on évoque les cultures alternatives, c'est aussi le côté DIY et du coup comment toi ça se matérialise chez toi?
Ben en fait, comme je disais un peu et pour reprendre un mix de ce que je disais avant, là je pense que pour moi la plus grande manifestation du DIY c'est au niveau du côté pro en fait, parce que après des études compliqué, on va dire, je me suis cherché assez longtemps sans vraiment trouver ce que je voulais faire. J'ai tout mis de côté, j'ai arrêté, j'ai commencé à bosser. Je me suis dit, vas-y, je monte un label. Alors à la base, je voulais ouvrir un magasin de disques. Ça s'est pas fait pour diverses raisons, mais j'ai monté Straight and Alert et en fait, ça a été mon boulot à plein temps pendant quasiment 6 ans. Là maintenant, comme je disais, je suis vidéaste, je me suis formé en ligne et en mettant les mains dans le cambouis, en expérimentant. Donc en fait, c'est très pragmatique et assez loin du côté DIY qu'on peut avoir dans les milieux punk et tout ça. Mais en fait, pour moi, le DIY, le truc numéro un, ça a été de créer mes boulots, en fait. Quoi.
Pour toi, vraiment, DIY, c'est vraiment créer son activité, quoi. C'est pas
forcément, mais c'est une. Enfin, moi, c'est la matérialisation que j'ai pour moi.
Ouais,
quoi.
Pour toi, est-ce que c'est intéressant parce que souvent, tu sais, quand on parle de DIY, c'est souvent pour créer, tu vois, on l'écoute souvent dans le monde du fanzine ou du groupe, enfin se démerder, on va dire, matériellement, mais toi c'est vraiment
mais en fait,
créer une activité, quoi.
Pas forcément, mais c'est juste une extension de ça, c'est-à-dire qu'en fait, oui, à la base, le DIY, pour moi, ça a été, comme pour beaucoup dans le milieu punk, de faire ses... T'as pas de groupe dans ta ville, tu crées ton groupe, il y a pas d'orga, t'orga des concerts, tu fais ton fanzine, tout ça, je l'ai fait, et en fait, je pense que j'ai poussé un peu le truc parce que le hasard a fait que par exemple le label ça marchait bien et que j'ai pu créer une activité à partir de ça, mais oui, à la base le DIY c'est vraiment pour moi c'est comme dit le guitariste de, j'ai plus son nom, le guitariste de Minor Threat, ce que je viens de dire, en fait, s'il n'y a pas de groupe dans ta ville, crée un groupe, il n'y a pas d'orga, orga des concerts.
Et comment tu faisais, parce que justement tu t'expliquais au tout début que tu avais été distributeur de disques, comment tu fonctionnais, t'avais pas de magasin physique du coup, comment tu faisais cette activité?
C'était par le net et en concert et après en convention et tout ça, et c'est-à-dire que assez simplement en fait, parce que les gens qui gèrent des labels, des disques que j'importais, c'était des gens comme moi, donc tu les contactes par mail, tu négocies les prix avec eux, même tu négocies même pas, il y a des prix, c'est comme ça. et ça se fait vraiment très simplement en fait, quoi, par mail. Et puis ensuite, au tout début, j'avais une liste que je tenais à jour à la main sur un blog ou un blogspot ou un truc comme ça. Et avec un mail, les gens m'envoyaient des mails, ils me disaient ce qu'ils voulaient, je calculais les frais de port, je leur envoyais, ils me payaient par PayPal. Et puis aussi les bacs en concert pour vendre les disques de la main à la main, quoi.
Et ça, c'était en quelle année, ça?
Ça, j'ai commencé en 2009. En fait, j'ai un pote qui jouait dans mon premier groupe, justement, qui, lui, avait une distro avant moi et qui est parti pour finir ses études en Angleterre. Et il s'est retrouvé un peu avec du stock sur les bras. Et moi, ça concordait avec le moment où je m'étais dit « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Et donc, en fait, je lui ai racheté son stock et j'ai commencé comme ça. Donc, 2009,
ouais. Ouais, donc c'était même pas encore en plus l'époque où il y avait vraiment tous les réseaux là qui étaient bien développés et tout, quoi. Tous les réseaux sociaux qui étaient bien développés, pas comme aujourd'hui, quoi.
Ouais, non, clairement pas. Non, mais il y avait, à contrario, il y avait beaucoup, il y avait les forums. Et en fait, ça, c'est pareil, on vendait beaucoup sur les forums. Moi, j'avais un trade avec le nom de mon label, je crois, et puis je postais mes nouveautés et les gens m'envoyaient des DM ou des mails. Et c'était peut-être plus simple même que maintenant avec les réseaux sociaux, parce que tu avais accès directement à l'information que tu cherchais. Enfin, c'était vraiment des espèces de groupes là où maintenant ça peut être dilué un peu dans ton feed, quoi.
Ouais, et puis les forums c'était en plus peut-être beaucoup plus spécialisé, donc c'est vrai que si quelqu'un cherchait vraiment quelque chose de spécifique avec le forum, c'était déjà plus simple à le trouver du coup.
Ouais, c'est ça, c'était tout le monde se connaissait, enfin moi les forums que je faisais, il y avait notamment Il y avait Nantes, mon amour, à Nantes, tout le monde se connaissait. Il y avait Wormzine aussi, qui était un peu plus gros, je crois que c'était basé à Paris, mais tout le monde connaissait tout le monde à peu près, quoi. Et donc c'était beaucoup plus simple, je pense. Enfin, plus simple, je sais pas, c'était différent, mais c'était pas forcément aussi compliqué qu'on pourrait l'imaginer.
Puis je sais pas si aujourd'hui, avec toi, Instagram, tout ça, est-ce qu'il y a plus de, entre guillemets, de concurrence. Après, je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui vendent des disques comme tu le faisais, parce que peut-être que ça se vend aussi peut-être un peu moins aujourd'hui.
Je sais pas, je t'avoue que je suis un peu moins. Je sais que ça existe toujours. Hein. En France, je sais pas si quelqu'un... Il y avait une distro, il y avait deux distros même qui avaient repris un peu le flambeau, on va dire, avec des gros guillemets encore. Hein. Je veux pas me jeter des fleurs ou quoi, mais qui avaient repris le truc. Je sais pas si... Je ne saurais pas trop te dire, peut-être parce que le prix des disques a tellement augmenté, l'Angleterre est sortie de l'Europe, donc maintenant quand tu veux importer des disques, tu as des taxes, là avec les US ça va être un bordel aussi, donc c'est possible. Moi c'est une des raisons qui m'a fait arrêter aussi, hein. C'est pas que, mais l'inflation du prix du disque, ça me saoulait en fait, de vendre des disques de punk à 20 balles, c'était chiant.
Ouais, ça commence à faire un petit peu.
Ouais.
Il y a un truc que tu disais tout à l'heure qui est intéressant. Tu parlais un peu de déterminisme sociaux et justement, nous on trouve qu'il y a un peu un discours actuel dans notre société sous forme un peu d'injonction qui incite l'individu à, en gros, à se prendre en main et on lui met l'idée en tête qu'il serait pleinement maître de sa vie au point de mettre un peu justement de côté l'ensemble des facteurs externes qui régissent en réalité notre vie. Bien sûr, c'est dans la culture DIY, il y a cette idée de faire les choses par nous-mêmes, mais est-ce que tu penses que la différence, c'est que nous, on a l'impression qu'un peu dans la culture DIY, il y a un peu aussi cette culture d'entraide. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ouais, bah l'entraide, c'est clairement omniprésent, et je pense que sans ça, les scènes indées, alors que ce soit hardcore, punk, metal et tout ça, ça serait pas aussi développé. Parce qu'en fait, enfin, moi, je vais prendre ce que je connais, mais le cas vraiment de la scène hardcore punk, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est les mêmes personnes qui viennent aux concerts, qui jouent dans les groupes, qui font des labels, des zines, qui organisent des concerts. Donc en fait, je pense que c'est assez simple et naturel ce côté entraide de dépanner un groupe qui va en tournée, en organisant un concert, en les hébergeant, parce que, ben, en fait, tu te retrouves toi aussi, parfois dans la même situation, quoi.
Ah, parce que c'est que moi, c'est vraiment ce côté entraide qui je trouve intéressant. Et du coup, je trouve qu'il y a moins ce côté dans le DIY. Il y a ce discours fais-le par toi-même, mais il y a pas ce côté, je trouve, pesant, quoi, sur la personne, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais peut-être parce qu'il y a pas vraiment d'attente aussi, les attentes sont plus basses. C'est pas forcément le terme, mais même si c'est peut-être le cas malheureusement. Mais je pense que ouais, les attentes sont peut-être pas les mêmes en fait. Vu que ça reste quand même beaucoup aussi pour du loisir et du plaisir. Je pense que si tu fais un groupe et que le concert est éclaté, c'est pas grave en fait, quoi. Enfin, tu vois.
C'est quoi ? Il y a peut-être pas trop cette notion en fait au final de concurrence entre chacun, c'est plutôt effectivement faut le faire, mais du coup on le fait ensemble aussi, quoi, donc c'est peut-être plus sain dans ce côté là quoi.
Ouais, je pense, et je vois pas vraiment de notion de concurrence. Alors il doit y en avoir, hein, les groupes qui peut-être qui commencent à marcher un petit peu, tu vois, mais encore je vois même pas quel serait l'intérêt d'avoir de la concurrence, parce que c'est pas comme, j'en sais rien moi, une marque de ce que tu veux, de fringues de sport, j'en sais rien, une marque de pompe, admettons, où si tu vas courir, bah tu vas soit acheter des Adidas, soit acheter des Nike, pour schématiser. Ben en fait ça marche pas comme ça. Enfin, tu peux très bien avoir un concert avec deux groupes qui pourraient être en concurrence.
Ouais, c'est clair.
Tu vois, et en fait au contraire ça nourrit le truc, parce que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un espèce de noyau dur quand même qui fait les groupes, qui fait les concerts et tout ça, et ça nourrit les gens naviguent un petit peu entre différents groupes. Ça arrive d'avoir des formations qu'ont des membres en commun, et je pense que ça tire plus les choses vers le haut. Il y a qu'à voir certaines scènes en France ou ailleurs, hein, quand il y a une espèce d'émulation de un groupe qui commence à marcher, puis des gens qui s'y greffent, qui font des groupes avec les mêmes gens, mais en fait ça tire tout le monde vers le haut, et ça élève la scène et la qualité aussi des trucs, quoi. Mais il n'y a pas ce côté, je pense, ni compète ni attente, Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, en fait.
Et je sais pas, toi, tu connais beaucoup plus le milieu que nous du skate. Est-ce que même entre skateurs, il y a une concurrence ou c'est plus, toi, sur des compètes, en fait, c'est plus des potes, finalement? Alors, il y a peut-être une concurrence, le temps, on va dire, de la compète, du jeu, quoi. Mais est-ce que, en fait, est-ce qu'il y a peut-être aussi, on a l'impression qu'il y a plus cette notion de potes, quoi.
Ouais, alors, je parle avec des pincettes parce que je suis beaucoup moins, le skate, j'en fais depuis très longtemps, mais j'ai pas été aussi impliqué dans la scène, on va dire. Donc je parle de ce que je connais, ce que je vois, mais ce que tu dis c'est très vrai. Je sais que je crois que c'était quand il y a eu les JO, ça avait choqué entre guillemets certaines personnes de voir que les mecs en finale, les mecs et les filles, ils se congratulent alors qu'ils viennent de se faire battre en fait quoi. c'est-à-dire que la personne qui gagne, tout le monde va aller la serrer dans ses bras, lui faire des checks et tout ça. Et il y a vraiment ce côté ouais comme tu dis en fait c'est des potes, même s'ils sont en compète, mais en fait, ils sont toujours ensemble. Enfin, ils sont toujours ensemble, ils se retrouvent un peu sur toutes les compètes. Ils skatent des fois pour des marques, ils sont dans le même crew, donc ils vont partir en tournée ensemble. Enfin, il n'y a pas vraiment cet esprit compète. Il y en a qui l'ont, mais c'est quand même plutôt, à contrario d'autres sports, c'est quand même vachement friendly et vachement tout le monde se soutient en fait.
Mais Marc, tu vois, nous on suit beaucoup plus le foot.
Ouais.
Et en fait, dans le foot, t'as l'impression qu'il y a aussi ce côté très très compète. Mmh. Et bah toi, notamment, enfin nous, on est pour l'Olympique Lyonnais, et du coup, il y a le derby avec Saint-Étienne, et donc t'as l'impression que les joueurs se détestent. Et quand tu regardes en fait un peu les coulisses des matchs et tout, en fait, tu sais, t'as des joueurs, ils se connaissent depuis tout petit, parce qu'ils ont été au centre de formation ensemble dans d'autres clubs. Il suffit qu'ils jouent pour le même pays et tout. Et en fait, il y a beaucoup de potes finalement. Et quand tu les vois rigoler ensemble après le match, tu te dis ah ouais, c'est vraiment en fait pendant le match quoi qu'il y a une rivalité, mais en fait en dehors, t'as plein de joueurs de plein d'équipes qui sont potes quoi en fait.
Ben après, je pense aussi la différence, c'est qu'en fait les sports d'équipe et notamment le foot, qui est un truc hyper populaire, c'est qu'ils sont poussés par les rivalités qui sont créées par les supporters, notamment aussi quoi. C'est-à-dire que la différence du skate, c'est que bah t'es tout seul, tu skates pour toi, tu vois, ou pour une marque que tu représentes, mais il y a pas de compète comme ça entre les marques. Là où dans le foot ou d'autres sports, hein, t'as vraiment ce côté. Moi, je suis très fan de basket, c'est pareil. Hein, les fans de NBA, ils sont. Ouais, c'est les fans en fait qui créent l'espèce de rivalité et d'hostilité plus que les joueurs qui, comme tu dis, soit ont évolué ensemble quand ils étaient gamins, soit vont jouer dans des équipes nationales ensemble et se retrouver dans les équipes de clubs ensuite les uns contre les autres. S'ils se détestaient, ça marcherait pas, je pense pas quoi.
Ouais, et puis t'as même derrière dans les sports collectifs, même les médias en fait au final qui créent la rivalité pour eux vendre leur derrière ce qu'ils diffusent donc.
Ouais, bien sûr.
C'est encore des strates un peu bizarres.
Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah ouais, ça fait vendre.
puis même au skate, il y a pas cette notion, on va dire, de supporter, parce qu'il y a pas de, enfin les skateurs, à part aux Jeux Olympiques où il y a une nation derrière, mais ils skatent pas pour un club, on va dire, ils skatent pour eux en compétition, mais. Puis du coup en fait bah même les gens qui suivent finalement peut-être qu'ils supportent entre guillemets plusieurs skateurs quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que tu vois, pour prendre ton exemple des JO, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont supporter pas forcément le skateur. Alors, je pense un petit peu par chauvinisme, le skateur qui représente leur pays, mais peut-être être quand même plus fan d'un autre skateur parce que juste ils aiment bien son skate, ils aiment bien son style, même si au final ils skatent pour le Japon par exemple, comme Yuto qui a gagné les premiers JO, qui a un style moi que je trouve incroyable. Bah, j'aurais préféré peut-être que ce soit, enfin c'est lui qui a gagné pour le coup, mais tu peux avoir tendance peut-être à soutenir un skateur plus que t'aimes que juste celui qui représente ta nation si au final tu te retrouves pas dans son style de skate quoi, tu vois.
Et avant les JO, il y avait au skate déjà des compétitions où ça rassemblait des équipes comme ça, on va dire des sélections nationales, ou c'est vraiment là depuis les JO que y a cette notion de skater pour une nation ou pour un... Enfin, pour une espèce de club, quoi, on va dire.
Non, c'est vraiment les JO, hein, je crois, parce que je suis en train de réfléchir, si je dis pas de conneries, il y a des compètes depuis longtemps, mais c'était toujours les skateurs skataient en leur nom propre, en fait. Il y avait pas de bannière de pays derrière, je crois pas.
Parce que ouais, donc ça, en fait, là, les JO, par la forme que ça amène un truc totalement totalement, enfin une conception nouvelle en fait du sport en lui-même quoi, qu'est le skate, parce que s'il n'y a pas cette notion de, parce que tu vois en fait quand il y a le foot au JO, bon bah c'est l'équipe de France ou l'équipe d'Espagne ou machin, mais ça existe déjà, tu vois, il y a des clubs, des nations dans tous les sports, soit le basket ou le rugby à 7 ou des choses comme ça, mais là le skate c'est vraiment ça existait pas quoi, cette rouler pour une équipe quoi.
Ouais, t'as raison, et en plus c'est marrant parce que c'est quand même un sujet qui a fait débat et qui fait toujours débat, hein, le skate au JO, la manière de juger tout ça, enfin bref, mais c'est un prisme, j'ai l'impression, qui a jamais été abordé, le côté comme tu dis, bah ça apporte une nouvelle façon de supporter un skateur qui est pas pour ce qu'il est mais pour le pays pour lequel il skate en fait quoi.
Alors après, est-ce que ça va en profondeur, parce que finalement c'est tous les 4 ans, donc est-ce que ça va, parce que en fait entre les 4 ans il y a pas vraiment cette notion. Alors en fait, il y a peut-être des phases qualificatives ou des choses comme ça, mais même les phases qualificatives, finalement, en fait, c'est les skateurs en fonction de leurs résultats sur certains circuits.
Ouais, je crois que c'est à titre individuel. C'est un beau bazar. Je sais pas exactement comment ça. Non, mais c'est assez récent et c'est assez compliqué, je crois, à suivre le système pour faire partie de l'équipe nationale. Mais merde, je voulais dire un truc. Bon, c'est pas grave, ça m'est sorti de la tête. Ah non, et si oui, ce que tu disais sur le fait que c'est tous les 4 ans, c'est surtout que c'est une discipline où ça évolue quand même assez vite. C'est-à-dire que là où t'as, je vois par exemple, tu prends judo, tu vois Teddy Riner, je sais pas ça fait combien de temps qu'il est au JO, mais qui a une longévité assez grande quand même, quoi, qui peut faire peut-être, je sais pas, 3 voire 4 JO, ça fait 16 ans. En skate, ça marche pas comme ça, quoi. Rien que sur 4 ans, je pense que tu peux avoir, t'en as qui seront toujours là, mais tu peux aussi avoir une relève qui va assez vite changer. Et donc, du coup, les nations fortes, entre guillemets, ça existe pas. Enfin, même si depuis que le skate est au JO, il y a quand même beaucoup de Japonais et de Japonaises surtout qui sont vraiment hyper forts, qui ont un peu popé d'un coup. Mais sinon, en fait, il n'y a pas vraiment ce côté hégémonique que tu peux avoir dans certains sports où tu as des nations qui sont vraiment les meilleures. Tu peux avoir un mec qui va popper, j'en sais rien, de Croatie et qui va être le meilleur skateur pour les JO et 4 ans plus tard, ce sera une autre nation, quoi.
Ouais, et puis tu vois, c'est comme, toi, on parlait du foot ou du basket, c'est pareil, tu vois, bon, tu prends en France, au niveau du foot, ils vont, toi, c'est les clubs qui vont travailler aussi un peu avec la Fédération française, avec les équipes de jeunes, pour former en équipe des générations futures, alors que le skate, c'est vraiment, c'est vraiment de façon individuelle, quoi, il n'y a pas trop la fédération qui va, je sais pas, peut-être qu'ils vont créer finalement un pôle, ouais, ça commence.
Si, bah si, avec les JO, forcément, hein. Avec les JO, la Fédé, en plus, c'est compliqué, parce que le skate est sous la Fédé de roller aussi, c'est un peu le même bazar que je crois c'était à l'époque avec le snowboard qui était sous la fédé de ski, et ça le faisait pas parce que c'est pas les mêmes sports et pas les mêmes conceptions et tout ça, mais maintenant ouais il y a les fédés, des coachs et tout ça qui poussent des espoirs, enfin c'est un peu comme dans tous les sports quoi, il y a une espèce de scission qui est en train de s'agrandir je pense avec le skate plus fun et le skate de rue et le skate de compète qui est vraiment maintenant je pense une discipline à part entière quoi.
Et justement, ce truc-là qui évolue dans le skate, est-ce que ça peut un peu le... Enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que ça peut quelque part le faire évoluer, mais de façon... Enfin, pas forcément dans le bon sens, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de skateurs, justement, qui rejettent aussi un peu cette notion des JO, en fait, qui préfèrent le faire comme avant, ou...
T'as
quel regard là-dessus, ouais.
Oui, c'est ce que tu dis, c'est que, en fait... c'est comme si on venait codifier le punk en fait quoi. Enfin ça l'est un petit peu, mais si des institutions venaient codifier le punk et qu'on disait faut jouer comme ça et faut faire tant de mesures et tout ça, en fait c'est vu que c'est des cultures qui sont hyper libres à la base, dès que t'essayes de mettre un peu du cadre, ça plaît forcément pas à tout le monde, est-ce que je peux comprendre, et ça enlève aussi tout un pan du truc qui est la culture skate, en fait c'est pas juste une performance sportive que tu peux noter de 0 à 10, en fait t'as tout un univers en fait qui va avec ça, qui est limite aussi important que la pratique en elle-même quoi.
Et justement tu vois, ça fait écho un peu une question qu'on voulait te poser un petit peu plus tard, mais toi il y a plein de scènes, que ce soit en musique avec le rap et là un petit peu le métal, le sport avec le skate où ça apparaît au JO, il y a le monde du tatouage, tu vois, où c'est passé d'une culture très subversive à une culture un peu plus mainstream. Et même ce qui concerne les schémas de promotion ou et même les discours, tu vois, tu sens que ça, dans certaines paroles de musique, que ce soit le rap ou le hardcore, il y a moins de discours, à dire, très subversifs. Est-ce que toi tu ressens cela également, que quelque part finalement parce que tu vois, tu sens qu'il y a aussi des gens qui veulent que ça se démocratise, parce que finalement ça ouvre des marchés économiques, des choses comme ça, mais au final tu perds aussi un peu l'essence du truc, quoi.
Ouais, bah c'est tu l'as dit, hein, le nerf de la guerre, encore une fois, quoi. C'est que je pense que ça a toujours été un peu le cas avec n'importe quelle sous-culture, c'est dès que ça prend de l'ampleur, bah ça va toujours commencer à intéresser les gros médias, les marques, tu vois, pour le skate, le nombre de marques qui ont fait des pubs avec du skate aux alentours des JO, c'était n'importe quoi. Et surtout pas du tout bien exploité. Enfin, ça se voyait quand il y avait pas un directeur artistique qui avait un petit peu de connaissances dans le skate. Et en fait, de manière générale, ben les gens, c'est un peu vague, mais ils y voient une opportunité business. Et dès que là, ces gens-là, ils arrivent à mettre le grappin dessus, bah t'as les échelles de popularité qui changent. Ce qui était rejeté par le grand public parce que c'était jugé un peu comme trop niche ou trop extrême, ça commence à plaire au plus grand nombre. Ça confirme l'opportunité business que certains pensaient. Donc t'en as qui vont peut-être commencer à en vivre, par exemple des groupes, tu vois, qui avaient pas forcément envisagé ce truc-là. Et ça peut être un peu un engrenage, c'est-à-dire que bah si t'as commencé un groupe pour le fun, tu vois, l'exemple que j'ai, ça va peut-être vous parler, c'est Turnstyle. Je sais pas si vous voyez
ouais,
ce groupe.
Ouais, bien sûr. Ouais.
En fait, c'était peut-être leur volonté, hein. Mais quand tu compares le premier groupe le premier EP, les deux premiers EP qui sont vraiment du hardcore et le dernier c'est de la pop, et ça peut être un peu aussi l'engrenage de bah tu commences à faire un truc, tu commences à en tirer des revenus, peut-être tu peux en vivre, donc tu crées forcément une attente. Tu vois, ça plaît au plus grand nombre des gens qui au plus grand nombre pardon. Des gens qui vont peut-être avoir des goûts moins nichés, on va dire. Donc, bah, faut faire aussi des albums un peu plus mainstream. Et tu vois, tu peux vite te retrouver à être un peu esclave de ce que t'as créé pour faire plaisir au plus grand nombre. Et donc, le message qui va peut-être se lisser, tout genre de trucs, quoi, tu vois. Et ouais, dans le skate, c'est le cas. Dans la musique, c'est le cas. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tous, mais il y a quand même des acteurs qui suivent un peu ce schéma-là, quoi.
Ouais, mais tu vois, là, on est en train de préparer un podcast avec quelqu'un qui a fait une thèse sur tous ces sujets-là, notamment. Alors, on le développera en podcast peut-être sur ce qu'il appelle le design systémique. Je vais pas le définir aujourd'hui.
Ouais.
Mais il avait étudié dans sa thèse justement toute sa thèse portait sur ce qui se passait, on va dire, dans les quartiers et la culture de quartier, il y avait beaucoup de rap en France. Et justement, il expliquait qu'au début, le rap, il y avait dans les discours beaucoup de discours contestataires qui étaient plus, on va dire, entre guillemets, de gauche. Et ouais. Aujourd'hui, comme ça s'est développé, ça s'est mis dans la culture mainstream. Le rap, c'est vrai que maintenant il y en a un peu partout, quoi, en France.
Ouais.
Les discours, c'est très, ça fait très business, quoi.
Ah bah ouais.
Et du coup, il disait ce qu'on appelait à l'époque une culture alternative, finalement, il disait qu'aujourd'hui, c'est plus du tout alternatif, quoi. C'est plus, c'est dans l'esprit des gens, ça fait toujours un peu culture alternative, mais t'as l'impression que c'est plus du coup un marketing qu'autre chose, quoi.
Mais il y a de ça, mais je pense que les cultures, elles existent toujours. Alors le rap, j'adore le rap, hein, mais je connais un peu moins la scène actuelle. Mais je pense qu'il y a aussi bien, comme dans le hardcore, des scènes toujours underground avec des mecs qui rappent dans des garages et ça existe toujours. C'est juste que la vitrine, en fait, est peut-être différente, c'est-à-dire que, enfin, déjà il y a une vitrine au niveau du grand public et ouais, ça a changé. Mais après, je veux pas non plus sonner comme un gros gatekeeper. Je pense que c'est aussi ce genre de truc qui peut amener des kids à s'intéresser à un style et après eux à les diguer, tu vois, ça peut être une porte d'entrée là où avant tu t'avais pas forcément, enfin c'était peut-être plus compliqué d'accéder à ces trucs-là, quoi. Mais je pense que ça crée peut-être des scènes, c'est-à-dire des scènes parallèles, c'est-à-dire que tu vas avoir une scène qui va se qualifier de hardcore, on va dire, pour rester dans ce que je connais, avec des gens qui vont écouter que du Turnstyle et qui vont penser que le hardcore c'est ça, et la scène va se développer dans ce truc-là. Et tu vas avoir une autre scène qui va être aussi du hardcore avec d'autres types de personnes et avec des groupes, on va dire, plus niches. Et de toute façon, après, ça communique aussi. Hein. J'aime bien ton style. Hein. Y a pas de sujet.
Nous aussi. Mais tu vois, des fois, ce que je me demande, c'est que, t'as l'impression que des fois, dans l'esprit des gens, quand on dit culture alternative, ça s'arrête des fois uniquement à, peut-être au look. Alors que, tu vois, par exemple, moi, je trouve qu'il y a il y a plein de philosophes, des sociologues qui ont pas du tout un look alternatif, mais qui pourtant ont un vrai discours alternatif par rapport au discours, on va dire, dominant de notre société. Donc, est-ce que la culture alternative, c'est plus une question de discours? Une question de look ou
d'apparence.
Ouais, d'apparence, tu vois, c'est...
Je pense que c'est un peu un ensemble, mais en effet, le look, maintenant, surtout, enfin, bah, en 2025, ton look, tu peux le faire sur Zalando, quoi. Donc, ça veut... non, mais tu vois, ça veut plus dire grand-chose. Donc, je pense que oui, au final, c'est plus le... Enfin, c'est le discours qui prime, quoi. Tu peux avoir un mec qui a pas du tout le look, si son discours, il est cohérent, et je pense que il sera peut-être il peut y avoir une notion de jugement par exemple des gens qui vont se dire non mais c'est quoi ce mec il vaut rien, mais en fait c'est des gens qui vont penser ça, c'est les gens pour qui le look va primer, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Les gens qui sont vraiment dans le truc et qui écoutent le discours de la personne, ils se disent bah oui en fait il a peut-être pas les bons codes vestimentaires, tu vois, notamment dans le métal où c'est quand même très codifié et tout ça quoi. Mais en fait, si la personne sait de quoi elle parle et que son discours il tient debout, eh ben ça va marcher quoi. On s'en fout qu'il soit habillé, qu'il ait des ranjos et une cape quoi, tu vois.
Mais non, mais c'est moi voilà, c'est ce petit point que j'avais relevé quoi, que notamment tu vois quand on va en convention de tatou, t'as vraiment t'en as qu'on va dire entre guillemets, t'as le look qui va avec, ça fait vraiment très alternatif, mais finalement quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que bah qu'en fait c'est dans leur discours ils sont pas si alternatifs que ça.
Ben ouais, et puis en plus c'est un peu ce qu'on disait aussi, c'est que vu que maintenant il y a beaucoup de trucs quand même de culture alternative qui sont devenus mainstream. Moi je suis pas tatoué mais j'ai plein de potes tatoués, je vois l'évolution quand même de ce qu'ils me disent, du regard des gens, ne serait-ce que juste tu vas faire tes courses. Il y a 15 ans on te regardait si t'avais un tatouage, si t'avais des sleeves, tu vois, on te regardait comme un alien. Maintenant c'est je sais pas, t'as des gens qui foutent des trucs en rayon à Leclerc, ils sont tatoués de la tête aux pieds limite quoi, et c'est ok en fait.
Mais finalement toi c'est tu dis c'est qu'ils sont... Si le discours derrière est un peu normé, c'est pas plus alternatif que
ça. Oui, non, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, c'est que c'est peut-être moins engageant, je sais pas si c'est le terme, mais de moins risqué de prôner un look alternatif ou d'avoir un look alternatif maintenant, parce qu'en fait, ça veut plus trop rien dire quoi. On voit tout et n'importe quoi, enfin pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais on voit de tous les looks. Là où avant c'était quand même peut-être plus compliqué aussi d'y avoir accès parce que t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas, tu vois, j'en sais rien moi, la mère de famille en campagne ou le père de famille, il voyait pas forcément ce que c'était, j'en sais rien, un skin, un black métalleux, tu vois, là où maintenant tu vas sur le net et tu vois tout quoi, tu vois.
Ouais, c'est clair. Surtout dans les grands dans les grandes villes maintenant en fait, t'as toutes les cultures qui se mélangent, donc au final tu vois
c'est
même
ça.
Plus enfin quand tu promènes dans la rue en fait tu fais même pas trop gaffe à qui porte quoi ou comment
ouais,
l'on s'habille
ça.
Au final.
Et encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise chose hein, que les cultures, tu vois, comme disait NTM, le plus dur c'était sortir de la cave. je pense qu'il y a du bon et c'est cool aussi hein, de pas avoir peut-être au moindre dîner, avec tes collègues ou de famille ou quoi, de te justifier de ton look et de te justifier de comment tu penses, ce genre de trucs. Ce qui était peut-être plus le cas avant, mais d'un autre côté, ça a peut-être aussi perdu en authenticité et perdu en profondeur sur certains aspects. Je sais pas, c'est un peu un mélange de tout, je pense.
Ouais, et puis c'est une question peut-être un peu vaste, quoi.
Ouais.
Il y avait, je voulais revenir un peu sur ton activité de, alors j'ai envie de dire créateur de vidéos, mais c'est un peu plus que ça, parce que tu fais vraiment aussi du documentaire.
Ouais.
Notamment qu'on peut voir sur ta chaîne YouTube. Alors t'as fait un documentaire qui s'appelle Earth sur les... alors j'ai un accent anglais un peu pourri, mais sur les shops de skate.
Ouais.
Et tu publies aussi une série qui s'appelle Display. Alors c'est des épisodes beaucoup plus courts où tu mets en avant des créatifs qui font... également partie de la scène alternative. Est-ce que c'est une façon pour toi de rendre hommage à cette scène, justement, et de la faire vivre à ta façon?
Ouais. Alors déjà, bon, Display, juste pour revenir dessus, ça devait être une série. La vie a fait, et les projets ont fait que ça s'est un peu arrêté. J'aimerais, mais bon, j'ai des projets dans le même style en prévision. Et pour répondre à la question, ouais, je pense que quelque part, c'est une façon aussi de continuer à participer à des cultures, en fait, qui m'ont construit en tant que personne. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins impliqué dans la musique que je l'étais avant, même si, bon, comme je disais, j'ai toujours un groupe, mais voilà, plus autant qu'avant. Je fais beaucoup moins de skate, mais en fait, ça reste deux univers qui m'accompagnent au quotidien. C'est vraiment, enfin, c'est les trucs les plus importants, enfin, les plus importants, qui prennent beaucoup de place, on va dire, dans ma vie. Donc, je suis toujours fan, et je pense que c'est, moi, je vois ça comme une chance d'avoir réussi à trouver, en fait, un médium d'expression qui me permet de continuer à y participer d'une manière ou d'une autre, en fait, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose que j'ai cherché à faire ou juste qui s'est fait inconsciemment, naturellement, on va dire, mais ouais, il y a un côté, je pense, hommage et continuer, en fait, ouais, à participer à la création de quelque chose, quoi.
Ouais,
et
puis alors, mais du coup, toi, Display, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui sont prévus?
Non. Non, parce que ça, c'était...
C'est bien dommage.
Ouais, je sais. Non, mais ça demande beaucoup de temps, en fait, quand même.
Ah, j'imagine, ouais.
Ça demande beaucoup de temps, et c'est toujours un peu, vous devez le savoir avec le podcast, l'exercice d'équilibriste de jongler entre les projets passion et les projets... et la vie, en fait, et le boulot, quoi. Et surtout, je pense que plus j'avance, plus j'essaye de dissocier. C'est-à-dire que là, j'ai commencé la photo il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaye de plus aller vers ça pour le côté passion et la vidéo. Je vais pas dire d'essayer que de faire du business avec la vidéo, mais vu que j'en fais quand même beaucoup, beaucoup de la vidéo, quand je fais des projets passion, j'aime bien que ça soit en dehors de ça, quoi. Si ça ressemble trop à mon boulot, ben je vais peut-être avoir moins de kiff sur le truc, quoi.
Ouais, parce que Display, toi, t'avais mis sur ta chaîne YouTube, mais en fait c'était pas un projet pour la vendre à un diffuseur ou quelque chose, quoi. C'était vraiment pour toi.
Ouais, c'était vraiment le premier que j'ai fait avec Freak City. C'était au début que je faisais de la vidéo, en fait. Donc il y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans. C'était un des premiers projets où je me suis dit bon bah vas-y, hein, faut essayer de faire des interviews. Let's go. J'ai un pote, il est illustrateur. On va faire ça. Et donc c'est un projet que j'ai fait totalement bénévolement, parce que c'est moi qui lui ai proposé. Et Fortifem, pareil, c'était aussi pour continuer un peu ce truc là et ouais, donc c'est quand même des trucs qui m'ont pris beaucoup de temps, où j'en ai tiré rien d'autre que du plaisir, forcément, et de l'apprentissage, en fait, quoi. Mais c'était plus, ouais, des trucs pour apprendre, moi, à faire des choses en vidéo, que il y avait pas d'idée de vendre ça derrière. En tout cas, quand je les ai
et Earth, par contre, parce que quand dans le générique il y a des marques qui sont derrière, ouais. Et tout, est-ce que ça c'était plus professionnel dans le sens où t'en as tiré un revenu, ou c'était du contenu justement pour des marques?
Non, alors ça c'est un peu particulier. Je l'ai fait avec l'artiste qui a organisé, en fait, Lucas Beaufort, qui est un artiste qui est assez connu dans le milieu du skate, qui lui avait sorti un bouquin pendant le Covid qui s'appelait Heart, du coup, sur les skate shops, pour célébrer un peu les skate shops, parce qu'il avait du temps à tuer et il pouvait plus voyager, et il a fait ce bouquin là et en fait les docus étaient même pas prévus dans son plan. Moi, je l'ai connu après. C'est moi qui l'avais démarché pour justement faire un portrait sur lui, un peu comme j'avais fait dans les displays. L'idée ne l'a pas intéressé, parce qu'il avait déjà fait pas mal de trucs comme ça, mais le hasard du calendrier faisait qu'il partait sur ces tournées là donc, parce qu'en fait Heart, c'est en deux parties. Il y a eu une partie en Europe et une partie aux US, et le concept, c'est que lui, il allait faire des stops dans des skate shops où il organisait des expos éphémères avec les artistes qui avait collaboré avec les magasins en question, que ce soit des collabs sur des t-shirts, des planches, ce genre de choses. Et ça a été un petit peu le prétexte pour aller interviewer des acteurs, donc les gérants de shop, et des artistes, et des skateurs, et d'en faire un documentaire. Donc le côté marque, c'est, en fait, c'était plus lui pour sponsoriser son tour à la base. Et de là, ensuite, il a vendu le projet de documentaire. En plus, quoi, pour que j'aie quand même du budget pour un peu payer les longs mois de travail.
Et il a été diffusé où il a seulement été mis sur ta chaîne YouTube.
Ouais.
Il a quand même été diffusé.
Le premier a fait quelques festivals, à Paris, à Milan, en Bretagne, et le deuxième, pour l'instant, il est juste sur YouTube.
Parce que ouais, c'est. Enfin, nous, on l'a regardé en entier les deux parties. C'est un sacré boulot, quoi.
Ouais, je confirme. je confirme. Après, ça me sert aussi, moi, ça fait une belle carte de visite, quoi. Je sais pas à quel point vous connaissez le skate et tout, mais d'avoir des mecs comme dans le deuxième, comme Lance Mountain, qui est une figure, enfin, c'est un équivalent de Tony Hawk, hein, vraiment, ils ont commencé ensemble, c'est une légende. Moi, derrière, pour aller éventuellement là démarcher des marques pour faire d'autres documentaires, ça fait quand même une belle carte de visite, quoi.
Ouais, parce que ouais, les marques ils disent ouais, si le mec il a pu faire un documentaire avec ces gens-là, ça monte un peu de crédibilité, quoi, j'imagine.
Et ouais, et puis au-delà des gens, j'espère aussi la qualité du documentaire, parce que c'est pas les gens.
Ah ben le documentaire est de qualité, ça le confirme.
Merci.
Ah, mais en plus on est vraiment plongé dedans, donc même nous, toi qui est pas, enfin nous on regarde le skate un peu de loin, mais on n'a jamais été pratiquant. Enfin on a gamin, mais ça s'est mal terminé. mais du coup, on n'est pas des connaisseurs, tu vois. Et le documentaire, je trouve que c'est cool parce que ça, c'est pas non plus, tu vois, trop technique pour ceux qui connaissent pas vraiment. Et je trouve du coup, ça reste accessible pour. Enfin, déjà au niveau qualité d'image, je sais que c'est très agréable à regarder. Et puis au niveau du discours, ça reste très accessible même pour ceux qui connaissent pas forcément. Ouais, tu rends vraiment. Enfin, je trouve que ton. Enfin, on découvre vraiment ce que c'est un peu la culture du skate et tout, et c'est ouais, c'est hyper fluide à regarder et tout, donc c'est ouais, t'es vraiment plongé dedans en direct, quoi.
Bon bah top, merci. Ça va peut-être me faire gagner des vues.
mais un peu comme ta série Display, au final, tu vois, c'est des formats courts, du coup les deux vidéos, mais c'est vrai que moi quand j'ai commencé à la regarder, je me disais, ah, putain, j'aurais bien aimé que ça dure 1h30 en fait le truc. T'es vraiment plongé dans l'univers des gens, etc. Ouais. Et c'était bon, après c'est peut-être compliqué de faire un format long sur ce genre de choses, mais c'est que t'étais vraiment plongé dedans, où tu te disais, ah bah putain, j'ai hâte qu'il y ait deux épisodes qui sortent, en gros.
Ouais, non, ça dépend, hein. Tu peux faire des formats longs aussi, tout dépend comment la narration est construite et tout. Là, c'est vrai que moi je trouve que ce qui manque, que ce soit dans Art et dans les deux displays, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que c'est que des interviews assises face caméra, ouais. Avec des plans d'illustration. Et en fait, là où tu peux avoir un peu plus de richesse pour ensuite faire des formats plus longs, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu aux US, mais c'était compliqué vu qu'on était très peu de temps sur place, enfin avec Hart, c'est d'avoir un peu plus de scènes de vie, on va dire, quoi, tu vois.
Oui, ça apporte aussi peut-être un peu plus de, entre guillemets, de dynamisme aussi, ouais. Quand tu regardes le documentaire, mais.
Ouais, clairement.
Bah, après, mais bon, même toi, même que de l'interview assise, nous on était vraiment plongés dedans, quoi, donc.
Non, bah, tant mieux, hein, tant mieux.
Il y a un sujet qu'on voulait aborder avec toi, t'en as parlé un petit peu au début, c'était le straight edge que toi t'as découvert, ouais. Avec la culture hardcore. Est-ce que tu peux. Nous expliquer ce qu'est le straight edge et comment toi tu l'es devenu, parce que c'est pas un concept qu'on écoute parler, on va dire, tous les jours.
Ouais. Alors le straight edge, c'est un mouvement qui est né à Washington au début des années 80 avec un groupe qui s'appelait Minor Threat. Et ensuite ça a vraiment, je dirais, pris de l'ampleur au milieu des années 80, donc pas si longtemps après que ça, mais à cette époque là les périodes sont tellement courtes et tellement différentes que 5 ans c'est énorme. Donc au milieu des années 80 à New York, avec toute la vague qui s'appelait le Youth Crew, notamment porté par un groupe qui s'appelait Youth of Today. Et donc en fait c'était des kids de la scène punk hardcore qui se plaçaient un peu en opposition avec la scène punk dans laquelle ils étaient, avec des gens qui étaient peut-être plus vieux qu'eux et qui passaient pas mal de temps à se défoncer, à picoler, à baiser sans trop réfléchir, si on se schématise un peu. C'était vraiment le sex, drugs and rock'n'roll, quoi. Et donc en fait l'idée, c'est de pas consommer de drogue, pas d'alcool, pas de clope, et de pas coucher sans sentiment. Alors Ça, c'est un peu, c'est symbolisé par 3X, en fait. C'est un peu ces grands principes-là. Le dernier X, c'est celui qui a le plus de souplesse d'interprétation, on va dire. Et ensuite, après, il y a eu des évolutions. Il y a eu notamment, dans les années 90, il y a eu le mouvement Hardline, je sais pas si ça parle à certains, qui était vraiment, qui était plus extrême, qui pouvait, donc il y avait, ils ont aussi, beaucoup, enfin c'était, il y avait le véganisme donc qui était inclus dans les principes, on va dire quoi. T'en avais même certains qui étaient pro-life et tout ça. Donc là c'était un peu, c'était la dérive. Et donc moi en fait quand j'ai commencé à skater, aller en concert, donc j'avais 12 ans comme je disais, j'étais avec des gars qui étaient plus vieux dans une ville ouvrière donc à Saint-Nazaire, donc l'alcool, la drogue et tout ça c'était très présent et très tôt. J'ai testé rapidement quand j'avais 14-15 ans quoi. J'ai jamais kiffé ça. En parallèle, je commençais de plus en plus à m'intéresser au hardcore. Je commençais à acheter des disques de Minor Threat, de Youth of Today, lire les paroles, comprendre qu'il y avait bah, des gamins qui, comme moi à leur époque, se retrouvaient pas là-dedans et qui ils proposaient une alternative à ce qui était la norme, on va dire quoi. Donc je commençais un petit peu à questionner tout ça, à me dire ben en fait j'aime pas fumer, j'aime pas boire, je le fais parce que je sais pas trop pourquoi, parce que les autres le font en fait quoi. Et il y a eu un événement en fait quand j'ai eu 17 ans, donc j'ai un cousin qui avait 3 ans de plus que moi, qui j'étais assez proche, qui a eu un accident de voiture lié à l'alcool. Il est mort sur le coup et du coup ça a un peu enfoncé le clou. Je me suis dit bon, en fait ces conneries c'est vraiment pas pour moi, j'arrête quoi. Et donc là, ça va faire 20 ans que je suis stratège.
C'est intéressant là de t'aies fait tout ce rappel-là sur la définition, parce que c'est nous-mêmes en fait, on boit pas d'alcool et puis on fume pas, etc. Enfin, on drogue pas ni autre. Mais tu vois, on est aussi un peu dans cette culture-là de corps, etc. Par contre, nous, on s'est jamais revendiqué stratège. Alors, tu vois, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait fallait quand même autre chose, peut-être autre chose de plus, je sais pas. Peut-être que dans les faits, en fait, on l'est, mais on s'est jamais. C'est vrai qu'on s'est jamais dit nous qu'on faisait partie, on va dire, de ce groupe-là, quoi.
Ouais, bien sûr, c'est marrant, c'est une discussion que j'ai souvent avec le batteur d'un de mes groupes actuellement, qui est un peu plus vieux que moi et qui est pareil, qui est vegan, qui boit pas, qui fume pas et tout ça, mais il se revendique pas straight edge. Je sais, ça m'est toujours un peu, je me sens un peu, c'est pas que je me sens un peu con, mais c'est vrai, je me dis bon, en fait, pourquoi tu te labellises comme ça? Je pense qu'il y avait peut-être aussi à l'époque ce côté l'affirmation de quelque chose en fait qui était différent aussi quoi. Comme je disais, moi, tous mes potes fumaient, tous mes potes buvaient. Il y en a qui ont fini en HP, il y en a qui ont fini sous Subutex. Ils étaient au lycée, quoi. Pour ceux qui savent pas, le Subutex, si je dis pas de conneries, c'est un substitut pour arrêter, je sais plus quoi, pas l'héro, mais un truc de ce niveau-là, quoi. Et donc, je pense que ouais, il y avait ce côté aussi. Je sais que pour beaucoup, il y a le côté appartenance à un groupe. Que tu peux retrouver un peu partout, hein. Tu vois, t'as ça beaucoup dans le milieu métal, dans le milieu skinhead et tout ça. Moi, le côté appartenir à un groupe, c'était un peu compliqué parce que j'étais le seul dans ma ville. Donc le groupe, c'était moi. Il y avait Nantes qui était pas très loin, mais c'est pareil. Les stratèges, ils se comptaient sur les doigts de la main. C'était des gars que je connaissais pas forcément, qui étaient un peu plus vieux. Donc ce truc qu'il y a eu justement avec la vague Youth Crew. Où il y avait vraiment ce côté crew en fait, c'est-à-dire quoi, il y avait une affirmation du truc et en mode ouais on est straight edge et qu'est-ce qu'il y a quoi. Moi je l'avais, enfin je l'avais pas forcément parce que j'étais tout seul comme je disais. Donc je pense que oui en effet il y a pour se revendiquer straight edge, il y a quand même ce côté vraiment de vouloir affirmer quelque chose quoi. Moi, c'était pas juste le fait de me dire je bois pas, je fume pas. Il y avait le côté aussi, c'est de la merde en fait, quoi. Et vous vous niquez votre vie avec ces trucs-là, quoi. Moi, c'était ma manière de ressentir le truc aussi par rapport à l'expérience que j'avais vécue, la perte de mon cousin et tout ça. Il y avait, je pense, ce côté, ce besoin d'aller à l'encontre d'un truc que je trouvais naze, quoi.
Ouais, et puis ça permet aussi peut-être d'avoir une espèce de formulation d'un mot sur ce que tu, un peu ce que tu es pour. Toi, pour expliquer peut-être aussi un peu ce que tu veux véhiculer, des choses comme ça, quoi. Enfin, Je trouve aussi intéressant qu'il y ait ce mot-là, enfin, tu vois, ce goût, enfin, cette notion qui existe pour désigner tout ça, quoi.
Ouais, et puis surtout, c'est con, hein, mais encore une fois, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le côté culture alternative et le fait de pas avoir à s'expliquer à chaque fois de tes choix et tout, mais en fait, vu que moi, j'avais quand même beaucoup de potes qui étaient de ce milieu-là, enfin, quand t'as cet âge-là, tu sais, si tu juste tu bois pas, tu fumes pas, je pense que vous l'avez eu mille fois le ah vas-y mais pourquoi tu bois pas, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Là, tu vois, dans le milieu punk, les gens ils savaient que t'étais très tête, je t'emmerdais pas en fait quoi, tu vois. C'est un peu, c'était comme tu dis, ça pose une étiquette. Ah bon bah lui il est comme ça, machin. Moi je suis comme ça, chacun son truc, tu vois. Et ouais, je pense que ça joue aussi peut-être quoi.
Mais tu vois, la même eu c'est le genre de réflexion de la part de vegan aussi, tu vois. Où bah eux ils mangeaient pas de viande, mais toi nous on s'en foutait, ils font ce qu'ils veulent, mais eux par contre le fait qu'on boive pas et qu'on fume pas, là c'était choquant.
C'est vrai. Ah ouais, putain.
Ouais. 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 Mais Yann, c'est ce que tu disais, toi aussi t'as la culture hardcore, t'as aussi fait découvrir le véganisme.
Ouais. Ouais, bah ouais, parce que c'est quand même un truc qui est assez présent en fait aussi, véganisme, végétarisme et tout ça dans cette scène-là. En vrai, je serais curieux, il doit y avoir hein, des études de pourquoi, parce que je sais pas vraiment pourquoi c'est mis en corrélation. Enfin, ça existe plus là que ailleurs. Mais ouais, c'est par les groupes de hardcore, les textes et tout ça, et des amis qui étaient déjà végé ou vegan que j'ai été sensibilisé à ce truc-là. Il y a longtemps aussi, je sais plus, 2007, je crois.
Mais c'est vrai que dans la culture, enfin, déjà straight edge, enfin, je regarde en même temps, là, qu'on discute un peu sur Internet, c'est que c'est aussi présent, quoi, cette question du végétarien, du végétalien.
Ouais, comme je disais, végétalien, donc vegan, il y a eu ce truc-là vraiment dans les années 90, notamment avec un groupe qui s'appelle Earth Crisis, qui était un peu fer de lance du mouvement straight edge de cette époque-là. Et dès 88, je crois, avec Youth of Today, ils ont un morceau emblématique qui s'appelle No More. Et c'est un morceau pro-végétarien. C'est le clip, tu vois que des images d'abattoirs, et c'est quand est-ce qu'on va arrêter, en fait, quoi. Tu vois. Donc c'était quelque chose qui était déjà vachement présent aussi.
Ouais, après, est-ce que c'est plus présent dans cette culture-là, parce qu'entre guillemets, après j'ai pas envie de mettre trop d'étiquettes politiques, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup plus, un peu plus de, entre guillemets, de gauche dans ce milieu-là, donc est-ce qu'ils sont plus sensibles, on va dire, à toutes ces questions?
Je sais pas.
Après, il y a aussi une culture de droite hein, dans ce milieu.
Ouais, à l'époque, beaucoup moins quand même. je sais pas si c'est qu'un truc d'histoire de le côté gauche, parce que en fait, dans les milieux militants hors musique à gauche, j'ai pas l'impression que le véganisme ou le végétarisme soit plus, si peut-être plus qu'à droite quand même, mais c'est pas forcément un truc non plus un cheval de bataille. Je sais pas.
Après, enfin, toi, c'est peut-être après une lecture très simpliste que je fais, mais dans le sens où t'as des partis qui défendent les droits des animaux, des choses comme ça, on va dire le parti écologiste, ou il y a même le parti animaliste, ils se revendiquent plus de gauche.
Oui, bien sûr. Ouais.
Est-ce que du coup, après je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment dire dans le parti hardcore il y a une culture plus de gauche si. Que de droite?
Ah bah si, heureusement quand même, même si c'est assez sûrement droitisé, mais comme l'ensemble du monde en fait. Mais non, à la base c'est quand même des valeurs de gauche. Le punk hardcore.
On avait une dernière question à te poser, justement. On parlait de straight edge, de véganisme, et puis tout ce que les cultures alternatives justement t'ont permis de faire, même au niveau professionnel. Est-ce que tu dirais au final que cette scène a influencé positivement ta vie?
Ouais, clairement. Je pense que c'est une évidence un peu pour tout ce que j'ai dit tout au long de l'interview. Ça m'a inculqué des valeurs, alors que moi j'estime positives, hein, mais qui sont toujours aussi importantes pour moi. Qu'il y a 20 ans, j'ai rencontré la majorité de mes potes, de mes amis, ma copine aussi via cette scène. Donc ouais, ça m'a permis de voyager comme j'ai jamais, enfin, je l'aurais jamais imaginé en fait, venant d'une petite ville paumée de 70 000 habitants. J'ai quand même, grâce aux cultures alternatives et notamment à mes groupes, j'ai voyagé partout en Europe, aux US, au Japon, comme je disais. Donc ouais, ça a été un impact hyper positif. Et je serais curieux de voir où j'en serais si j'avais pas découvert ce milieu, quoi.
Puis ce que je trouve intéressant dans ton discours, c'est que justement c'est des cultures, enfin tu vois notamment le punk hardcore qui sont pas très mises en avant en France et on les connaît pas trop et on sait pas trop ce qu'il y a derrière et finalement on se rend compte qu'il y a plein de valeurs en fait qui peuvent influencer très très positivement la vie des personnes qui, on va dire, qui suivent ces cultures.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a les gens qui connaissent pas ont vite l'image de le punk, Sex Pistols, ça se drogue et ça picole. Alors c'est le cas hein, et ça existe aussi, mais il y a pas que ça. Il y a vraiment d'autres trucs et même les, enfin, je suis pas en croisade hein, contre les gens qui picolent et qui se droguent. Hein, j'ai plein d'amis qui le font, et il y a quand même des trucs, ça va bien au-delà de ça. Il y a beaucoup de choses vraiment intéressantes, ouais. Et je pense que c'est un bon, ça peut être un bon refuge pour les jeunes, quoi. C'est un peu idéaliste hein, comme discours, mais c'est vrai en fait. Ça apprend beaucoup de choses. Moi, sans ça, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas faites.
Et ben, je pense que c'est un joli mot pour finir.
Bah, top.
Et ben, merci Alexis.
Bah, merci à vous.
Merci, ouais.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur notre site, dans la description de cet épisode, rubrique blog, pour découvrir le travail d'Alexis, notamment sa chaîne YouTube où vous pourrez découvrir ses documentaires Hertz et Display. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, nous en profitons pour remercier Alexis pour nous avoir écrit et pour nous avoir proposé d'enregistrer cet épisode avec lui. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Tract ou celui de SinisNothing en tapant sinis.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt.